a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Adrien Delgrange, ce que disent les uns et les autres. Et puis nous décrypterons cette parole politique avec vous, Édouard Le Cerf. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général adjoint de l'Institut de sondage BVA. C'est l'image du jour. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy réunis pour commémorer le 75e anniversaire des combats du plateau des Glières dans les Alpes, au cours desquels une centaine de résistants furent tués en 1944. Après avoir voyagé ensemble depuis Paris, le chef de l'État et l'ancien président ont assisté côte à côte à la cérémonie d'hommage au cours de laquelle le chant des partisans que l'on écoutait à l'instant a été entonné par des enfants. Sur la photo, il y avait aussi le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui comme patron des Républicains est à la fois l'un des principaux opposants au chef de l'État actuel et l'héritier de l'ancien président.
Adrien. Alors, le principal concerné, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, présenté comme le confident, voire le conseiller d'Emmanuel Macron, n'est pas venu faire de la politique aujourd'hui. Il était d'ailleurs peu loquace pour commenter sa venue aux Glières, aux côtés de l'actuel président de la République.
Vous savez, nos personnes ont bien peu d'importance par rapport à ce qui s'est passé ici. Imaginez l'inverse, imaginez que j'ai refusé l'invitation. Quel exemple ça aurait donné ?
Alors que cette image de Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron peut être interprétée aussi comme une image à connotation politique à moins de 2 mois des élections européennes, sur RTL, Bruno Retailleau, chef de file LR des sénateurs, s'étonne de voir les deux hommes ensemble car ils ne sont pas en si bons termes.
Eh bien, curieusement, cette photo, elle se fera au moment où je pense Nicolas Sarkozy n'a jamais été aussi critique vis-à-vis de son successeur.
Pour Nathalie Loiseau, désormais tête de liste LREM, l'image des deux présidents côte à côte aux Glières montre l'unité nationale. Pour l'ancienne ministre, les Français en ont besoin en cette période troublée par le mouvement de protestation des Gilets jaunes.
Depuis trop longtemps et depuis ces derniers mois, il y a eu beaucoup de divisions. Il y a eu certains ont un peu perdu la tête en politique. Certains ont eu un rapport avec la violence qui était au moins ambigu. Je crois que les Français ont écouté ça avec sidération. Ils ont envie d'unité nationale.
Et puis enfin, à noter, Philippe, qu'à l'appel du Conseil de la Résistance d'hier et d'aujourd'hui, environ 200 personnes se sont rassemblées cet après-midi aux Glières pour dénoncer la venue d'Emmanuel Macron. Patrick Bonnet, co-président de ce Conseil national de la Résistance d'hier et d'aujourd'hui.
On défend le programme du Conseil national de la Résistance, c'est-à-dire la sécurité sociale, tous ces acquis sociaux qui ont été obtenus après-guerre. Et là, Macron et Sarkozy, ils ont été sur le plateau et en Morette, juste sur l'aspect militaire. Évidemment, ça fait partie de la résistance, mais suite à ça, il y a eu quand même toutes les conquêtes sociales avec ce programme du Conseil national de la résistance. Et ils sont mis en cause par le capitalisme, par Macron, par Hollande, par Sarkozy, depuis des années et des années.
Patrick Bonnet, le co-président du Conseil national de la résistance d'hier et d'aujourd'hui sur France 3.
Édouard Le Cerf, directeur général adjoint de l'Institut de sondage BVA. Comment est-ce que les Français perçoivent cela comme de l'unité nationale, ce qui est noble, ou comme une manœuvre, ce qui est politicien ?
Votre question est très intéressante, mais peut-être le plus intéressant, c'est que vous la posiez de cette manière-là. C'est-à-dire, comment est-ce que les Français perçoivent cela ? Ça veut dire que les uns se défendent de faire de la politique, les autres disent ou expliquent que ça en est. Naturellement, lorsqu'on invite un ancien président de la République comme Nicolas Sarkozy, lorsqu'on n'invite pas François Hollande, même si l'on n'a pas l'intention de faire vraiment de la politique, ça en devient automatiquement. C'est-à-dire que derrière, l'intention, qui peut être une intention effectivement sur l'unité nationale, sur un symbole, sur des choses très importantes qui rassemblent les Français, et bien naturellement, vous savez... Vous anticipez le fait que les commentaires vont aller dans le sens, c'est bien qu'on vient d'entendre, ou dans un sens ou dans l'autre. Donc là, c'est tout l'intérêt de ces petits messages subliminaux, mais jamais tant que cela. Parce qu'encore une fois, vous êtes un président de la République, vous invitez quelqu'un, vous savez ce qu'on va en dire, et vous avez beau vous en défendre, et bien vous anticipez ce qu'on va en dire.
Vous y faisiez allusion, Emmanuel Macron entretient des relations compliquées avec son prédécesseur, François Hollande, dont il a pourtant été conseiller puis ministre, alors qu'il rencontre régulièrement Nicolas Sarkozy. La dernière fois, c'était en décembre, en pleine crise des Gilets jaunes. Est-ce que c'est une preuve supplémentaire, j'allais dire, diront ses détracteurs, qu'Emmanuel Macron n'est pas ailleurs sur l'échiquier politique, mais bel et bien à droite?
Encore une fois, dans l'interprétation, on peut y voir ce signe-là, on peut y voir le fait que ce président de la République, Nicolas Sarkozy, est celui dont on a dit qu'il avait beaucoup plus l'oreille. En tout cas, les rencontres étaient plus fréquentes avec Emmanuel Macron. Alors, au-delà de... ça peut être donc perçu comme une confirmation, parce qu'en fait, la confirmation n'est qu'une confirmation. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la façon dont les Français perçoivent, au-delà de la manière dont chacun peut identifier politiquement telle ou telle mesure, tel ou tel mouvement, eh bien les Français, aujourd'hui, lorsqu'ils perçoivent Emmanuel Macron, beaucoup plus que ce que ce n'était le cas il y a deux ans, eh bien ils le positionnent très sensiblement sur la droite. Alors quand vous avez en plus l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est le symbole sans doute de la droite, d'une droite avant qu'elle n'explose, parce que finalement la droite après Nicolas Sarkozy, c'est une droite qui essaie de se recomposer, qui essaie de se retrouver un chef, qui explose à la présidentielle et qui depuis n'a pas réellement réussi à recoller les morceaux. Donc bien sûr, quand vous invitez ce symbole-là, oui, vous mettez... chez tous ceux qui veulent l'interpréter, effectivement, trois sous dans le nourrin et en tout cas de l'eau au moulin de cette interprétation-là.
Alors, le successeur de Nicolas Sarkozy et le prédécesseur d'Emmanuel Macron, c'est François Hollande, qui publie ces jours-ci une édition augmentée de son livre « Les leçons du pouvoir » et il tacle sèchement, une fois de plus, son successeur. C'est dans un entretien aux Parisiens, à vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté, dit l'ancien président. Le travail de sape continue donc.
Oui, continue. On peut percevoir là aussi la manière dont, on va dire, une partie de ceux qui soutiennent Emmanuel Macron ou une bonne partie des Français, parce qu'encore une fois, François Hollande, aujourd'hui, semble avoir pris du recul à travers un livre, mais il revient sans cesse. Mais de dire qu'à force de tout vouloir bousculer, rien n'a vraiment commencé, ou rien, tout s'est arrêté, les Français, aujourd'hui, si vous leur demandez de s'exprimer sur le quinquennat de François Hollande, a raison ou à tort. Mais en tout cas, ils nous disent, à force de ne rien avancer, vous ne finissez par ne rien bousculer du tout. Donc effectivement, on peut comprendre, parce que c'est vrai que dans la façon d'Emmanuel Macron, la manière de bousculer un peu les choses qui lui a été longtemps perçu comme quand même étant un élément favorable, eh bien aujourd'hui, dès que ça s'arrête, dès que ça bloque, ça donne le sentiment effectivement que le moteur même d'Emmanuel Macron s'arrête.
Est-ce que vous faites allusion au débat national qui est terminé ou quasiment terminé, hein, le président de la République sera la semaine prochaine en Corse pour une dernière prise de parole, mais que qu'est-ce que ça va donner ? Il va falloir que le président de la République donne un signal fort pour dire tout cela n'a pas été qu'une prise de parole, qu'un blabla, qu'un remue-ménage sans effet.
Le grand débat national a été encore une fois relativement habile, on l'a vu dans l'opinion, puisque Emmanuel Macron a regagné quelques points. Pas uniquement à cause de cela, mais effectivement. C'était très symboliquement, au-delà de ce que cela va donner, mais le premier symbole, c'était de dire « je reprends la main ». C'était de dire, effectivement, la politique française, ça n'est pas que les gilets jaunes, la politique française, ça n'est pas que moi bousculé par l'affaire Benalla, par les gilets jaunes ou par d'autres éléments, parce que on ne parlait plus, avant le lancement des gilets jaunes, que, un petit peu ce que vient de dire François Hollande malgré tout, le fait que les choses n'avançaient plus. Donc là, il avait repris l'initiative. Le fait de dire, je fais ce grand débat, je reprends l'initiative, je redonne de ma personne, puisque physiquement il allait dans les débats, je donne le sentiment que finalement, eh bien, les choses peuvent avancer différemment. Le problème qu'il y a là, et le problème depuis le début, c'est qu'il n'y a pas d'explication de la méthode. Il y a une méthode de débat, mais il n'y a ni une méthode claire expliqué sur l'entrée et la sortie. Donc naturellement, on voit le débat d'ailleurs a fonctionné, on l'a vu, les sondages montraient que les Français avaient envie effectivement de ce débat, se disaient que c'était peut-être le moment d'exprimer des choses, mais lorsque dès le départ vous n'avez pas expliqué comment est-ce que vous allez agréger tous ces éléments et qu'est-ce que vous allez en tirer pour en sortir, alors pas les solutions, mais quelle va être très clairement la méthode, est-ce qu'on va prendre un mois, est-ce qu'on va prendre 6 mois, est-ce qu'on va prendre 2 semaines, tout ça n'est pas clair et donc ça risque effectivement de crisper un peu plus.
Édouard Lesserre, vous avez également lu le journal Le Parisien, un long article qui donne la parole à plusieurs personnes proches du président de la République. Ces gens-là sont anonymes, ça se comprend, quand on sait ce qu'ils pensent, à savoir que Emmanuel Macron broie du noir, avec le départ de la moitié de ceux qui l'ont accompagné dans sa conquête du pouvoir, il serait déprimé. Vous êtes un fin politique, l'exercice du pouvoir use à ce point, alors qu'il n'a que 40 ans. C'est quand même le plus jeune président de la République, de la 5e République.
Évidemment, l'exercice du pouvoir use. L'exercice du pouvoir est une charge extrêmement lourde. Mais j'allais dire que Emmanuel Macron a rajouté quelques kilos dans ses besaces dès qu'il est arrivé, en disant qu'effectivement il était celui sur lequel tout devait reposer, qu'aucune décision ne devait se prendre sans lui. Je pense que parmi les éléments qu'on peut avoir à faire de la psychologie un tout petit peu de comptoir, mais malgré tout la psychologie politique, le fait de voir les choses moins avancées qu'est-ce qu'elles n'avançaient, ça doit être effectivement assez terrible pour quelqu'un dont le moteur est le moteur. Quand je m'explique, le moteur est le fait d'avancer. Le moteur est le fait de pouvoir faire avancer les choses, les faire se transformer. Lorsque les choses s'arrêtent, lorsqu'un certain nombre de coéquipiers s'en vont, oui, vous pouvez sans doute avoir un petit coup de blues.
Édouard Le Cerf de BVA, vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Dans 4 jours aura lieu sur la télévision de service public un grand débat entre les têtes de liste aux élections européennes. Hier, devant le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement, le président du Modem et des milliers de militants, Nathalie Loiseau a lancé la campagne du parti La République En Marche pour les européennes, Adrien.
Renaissance, tel est le slogan de cette liste. Certains diront réchauffé au vu des hommes et femmes présents sur cette liste. Notamment le numéro 2, Pascal Canfin, son ancien ami Yannick Jadot, tête de liste, lui, Europe Écologie Les Verts, déplore son choix. Yannick Jadot rappelle qu'il y a encore quelques mois, Pascal Canfin disait à quel point il ne pouvait pas rejoindre le gouvernement. Mais apparemment, les choses ont changé. L'ancien directeur de WWF France justifie son rôle sur cette liste LREM.
Je ne peux pas laisser, sans rien faire, les nationalistes tenter de fracturer et de fragmenter notre Europe. L'Europe dont on a besoin face à la Chine, face aux États-Unis, au 21e siècle. Et puis la deuxième grande motivation, c'est évidemment l'écologie. Et l'Europe est précisément la bonne échelle pour lutter contre le dérèglement climatique qui évidemment ne connaît pas de frontières. C'est pour ces deux raisons que je m'engage aujourd'hui sur la liste Renaissance.
Pascal Canfin sur TF1 aujourd'hui. Pour Bruno Retailleau, sénateur LR, cette liste LREM est tout simplement vouée à l'échec de par la présence de personnalités aux choix politiques bien divergents.
L'oiseau brasse de l'air, si j'ose dire. À partir du moment où vous mélangez Canfin des écologistes durs avec le jeune agriculteur tendance FDSEA, ça veut dire que vous vous condamnez à l'inaction. Alors c'est vrai que d'un point de vue politicien, il y a des clins d'œil, mais ça ne peut pas faire une colonne vertébrale. Ça n'exprime pas un projet européen.
L'écologie, on l'entend de plus en plus donc présente dans les programmes politiques, comme celui du Rassemblement National. Marine Le Pen animait cet après-midi un meeting axé sur l'écologie.
La solution de la crise, mes amis, nous la trouverons non dans l'écologie punitive, non par les lubies idéologiques des Khmers verts, mais par la mise en cohérence des politiques publiques par une vision globale. Il faut privilégier le local sur le global, le localisme sur le mondialisme, produire, consommer et retraiter sur place. C'est cela, mes amis.
Marine Le Pen cet après-midi en Seine-et-Marne lors d'un meeting.
Édouard Le Cerf, l'ancien ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a élevé l'écologie au rang de première des urgences dans la droite fil de la renaissance voulue par Emmanuel Macron dans la tribune qu'il avait publiée voilà quelques semaines. Dans ses études, BVA constate-t-il que l'environnement s'annonce comme un thème majeur du scrutin du 26 mai.
J'allais vous dire, si l'on interroge les Français, qu'on leur demande si ce sera un sujet important ou si c'est un sujet important et un sujet qui doit être traité au niveau européen, oui, les Français vont répondre oui. La réalité, c'est que nous suscitons là, chez les Français, une réponse qu'ils n'ont pas forcément à l'esprit aujourd'hui. Parce que j'allais dire, le premier élément de réponse, c'est que ces élections dont on commence à parler beaucoup, on voit bien que le théâtre se met en place, que les acteurs sont là, les spectateurs sont pas encore vraiment présents. C'est-à-dire que la salle est pas encore très pleine. On a encore aujourd'hui des Français qui sont très en retrait de ce que ça va être de ce scrutin, de la manière dont il va s'organiser, de la manière dont les différentes forces politiques vont se positionner. Ils n'y sont pas. Malgré tout, pour répondre à votre question, oui, l'environnement est une des préoccupations qui a le plus progressé au cours des derniers mois. Et c'est vrai que c'était très intéressant de voir, notamment à la fin de l'année dernière, nous avions interrogé les Français un an plus tard sur leurs préoccupations, pas forcément au niveau européen, mais leurs préoccupations en France. Eh bien, les deux préoccupations qui avaient progressé le plus, c'était le pouvoir d'achat et l'environnement. Tous les deux avaient gagné 17 points. Aujourd'hui, le fait de travailler ces deux dimensions-là, on voit bien chacun des partis politiques, chacune des offres politiques tente de les articuler, ça n'est pas encore aussi simple dans l'esprit des Français. Comment est-ce qu'on peut articuler l'un et l'autre? Ça reste une vraie question, une question qui peut-être sera débattue pour ces élections.
Il y a les thématiques, il y a aussi les personnes qui les portent, peut-être que ça pêche de ce côté-là. Jordan Bardella pour le Rassemblement National, François-Xavier Mélamy pour les Républicains, Raphaël Glucksmann pour le Parti Socialiste, Manon Aubry pour la France Insoumise, Yann Brossat pour le Parti Communiste, ce sont des gens jeunes, méconnus, des têtes de liste qui apportent certes un vent de nouveauté. C'est dans la cohérence d'un paysage politique toujours en mutation, deux ans après le raz-de-marée de l'élection d'Emmanuel Macron, place aux jeunes, dégagisme.
Soit c'est dans la cohérence et on se dit que c'est formidable d'avoir d'essayer le renouvellement et que l'élection européenne est un bon moyen pour le faire. Soit on se dit que cette élection n'est finalement pas si évidemment importante. Vous pouvez aussi considérer que il y a quelques années, les têtes de liste aux élections européennes s'appelaient Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil ou d'autres, et qu'aujourd'hui on a effectivement des personnes qui vont gagner en notoriété. Je ne remets en cause en rien leur qualité, leur positionnement, mais encore une fois, si vous voulez amener des gens à aller voter aux élections européennes, eh bien il faut des éléments moteurs, et les têtes de liste est un des éléments moteurs. Souvenez-vous, il a été décidé lors des précédentes élections européennes qu'il y aurait des Spitzenkandidaten, c'est-à-dire des candidats têtes de liste au niveau de tous les grands partis politiques, parce qu'on avait considéré que c'était un des moyens de faire venir les gens aux urnes. Là, on n'est pas tout à fait dans cette direction-là.
Philippe Le Caplin. C'est un casse-tête à 3 milliards d'euros. La suppression de la redevance qui permet de financer les radios et les télévisions de services publics comme, entre autres, RFI. Avant-hier, le ministre des Comptes Publics a relancé le débat en proposant sa suppression, d'autant que l'on ne saura plus comment l'adresser. Gérald Darmanin fait ainsi référence au problème posé par la suppression d'ici à la fin du quinquennat de la taxe d'habitation qui pousse à changer son mode de perception. Et cela fait réagir.
Alors, faut-il ou pas supprimer la redevance? La question a été posée au Républicain Bruno Retailleau. Voici sa réponse, tout en nuances.
Non, c'est la plus mauvaise façon d'aborder le sujet. Il faut d'abord se dire, ou bien on veut pas de service public, et alors il n'y a pas de contribution à l'audiovisuel, ou bien on veut un service public et il y a une contribution.
Vous pensez quoi, vous?
Moi, je pense qu'il y a un service public, il y a un besoin de service public. Simplement, le service public doit faire des efforts. On ne peut pas continuer sur un niveau de dépenses budgétaires et publiques du niveau que l'on a aujourd'hui.
Alors si Gérald Darmanin, vous le disiez, plaide pour la suppression de la redevance en tant que simple citoyen, disait-il, le ministre de la Culture, Franck Riester, y voit plutôt, lui, une évolution sur son système de perception.
Il faut bien imaginer un dispositif qui va permettre de maintenir les financements pour l'audiovisuel public.
Ça pourrait être quoi ?
Ce débat est ouvert. Ça peut être la redevance adossée sur l'impôt sur le revenu, sur d'autres taxes. Ça peut être différents types de financement.
Et puis enfin, pour Alexis Corbière, le député de la France Insoumise, attention, c'est la porte ouverte au financement privé.
Le gouvernement fait un effet d'annonce, ou plutôt prévoit une forme d'asphyxie du service public audiovisuel qui va s'aligner sur le privé et qui va devoir courir après des financements, notamment par la publicité ou des dégradations de programmes.
Alexis Corbière sur France 2. Et puis enfin, ce sont encore des tests du gouvernement qui n'a aucune stratégie fiscale, a estimé sur BFM TV le porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu.
Comment dire, Édouard Le Cerf, les Français entretiennent quel rapport avec les médias et au sens plus large concernant le service public?
Alors, il voit les médias en général, c'est-à-dire que les Français, vous le savez, les études le montrent depuis maintenant de nombreuses années, ont pris une vraie distance par rapport à l'information en général, même s'ils s'y intéressent beaucoup, et à la manière dont elle est traitée. C'est vrai que les journalistes, un peu comme les hommes politiques, sont aujourd'hui perçus comme étant faisant partie d'une forme d'élite, souvent coupée de la réalité, parfois sensible aux pressions de l'argent ou aux pressions politiques elles-mêmes. Donc, naturellement, on a aujourd'hui une image qui est relativement dégradée des politiques. On pourrait dire la même chose des sondeurs, hein, je pense. On peut se mettre dans le même panier. Politiques, journalistes, sondeurs, nous faisons partie de ceux qui essayons d'exprimer une forme de réalité. Les politiques, je ne sais pas, en tout cas. Les journalistes et les sondeurs. Et pourtant, on est déconsidérés. Cette rupture-là, elle ne s'arrangera pas naturellement lorsque les hommes politiques eux-mêmes se servent de cela. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la campagne présidentielle précédente, que c'était parfois un levier utilisé par certains pour pouvoir effectivement mettre en avant le fait, on le voit bien, la campagne aux États-Unis est aujourd'hui une campagne dans laquelle les médias sont devenus un acteur prépondérant utilisé par tel ou tel candidat. Donc naturellement, il y a un vrai travail de reconstruction, il y a un mea culpa à faire dans toutes les catégories, mais aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de travail pour pouvoir recoller une image de proximité entre les Français et leurs médias.
Merci pour ces analyses et ces commentaires, Édouard Le Cerf. Édouard Le Cerf, directeur général adjoint de l'Institut de sondage BVA. La politique encore sur RFI, ce sera demain matin. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui sera l'invité de la rédaction.